Radio Campus Paris.
Il est 20h46 et pour la dernière fois cette saison, le lobby LGBT pirate les ondes de Radio Campus Paris. Let's go Margot.
Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrent et au-delà.
Bonsoir Paris.
Salut. Yeah. Alors bienvenue.
C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
I'm like so gay, dude.
Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de souci.
Je pensais avoir tout vu, ou presque, des agissements des lobbies.
Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Darling, I want my gay rights now.
Si tu dis à un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre.
Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées.
Moi, je sais bien quand c'est sexiste, je me rends compte assez vite quand même.
C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
Le lobby sur Radio Campus Paris.
Alors, on en pense quoi de ce mois des fiertés tout pété, hein? Franchement, le RN est aux portes du pouvoir, le lendemain de la Pride. Décidément, rien ne nous sera épargné. Heureusement, dans tout ce marasme, il y a des choses qui ne changent pas, parmi lesquelles la douce et rassurante présence de Victor à mes côtés, comme chaque mois. Comment vas-tu, Victor?
Eh bien, écoute, Colin, on ne va pas se mentir, étant d'une humeur assez sensible à la météo et au climat politique, on ne peut pas dire que je sois particulièrement réjoui mois de juin, tu t'en doutes.
Notre invitée va être ravie d'être là, du coup, elle voit notre humeur morose. Alors dis-nous quand même, qui est autour de la table ce soir?
Eh bien, XP est avec nous pour ses disques du lobby. Salut XP.
Salut.
Alors, qui est au programme de ta chronique ce soir?
Eh bien, vous verrez, mais personne. Ah. Je suis moi aussi très énervé.
Bon.
Petit teasing.
Et puis Zoé nous rejoint un petit peu plus tard dans l'émission pour sa chronique.
Voilà, et puis elle nous parlera aussi de l'Ardisse, puisqu'elle est en train d'enregistrer actuellement, en ce moment même, un entretien avec l'Ardisse. On en reparle dans un instant. Alors, à circonstances inédites, édition plus ou moins spéciale, ce soir avec une émission en deux temps, vers 20h35, à un peu plus d'un mois de la cérémonie d'ouverture, on vous parle des Jeux Olympiques et Paralympiques en compagnie d'Alexandre Anseau, vice-président de la Fédération Sportive LGBT+, et avec Marie Patouillet, double championne du monde de paracyclisme, et qui participera aux Jeux Paralympiques de Paris cet été.
Mais avant cela, nous bouleversons nos programmes pour parler de cette dissolution de l'Assemblée nationale, des conséquences que pourrait avoir une majorité d'extrême droite à l'Assemblée et de l'espoir que représente peut-être le Front Populaire. C'est tout de suite sur Radio Campus Paris, on est ensemble jusqu'à 21h.
Le lobby Radio Campus Paris.
J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
La voix d'Emmanuel Macron, c'était donc le 9 juin au soir. Il prend acte de sa défaite aux élections européennes et annonce donc la dissolution de l'Assemblée nationale et donc la tenue d'élections législatives anticipées. Premier tour le 30 juin, second tour le 7 juillet, ça vous le savez. Ce soir, on va essayer d'analyser ensemble les enjeux queer de cette crise politique avec notre invité.
Maud Royer, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors vous êtes militante trans et lesbienne, présidente de l'association Toutes des Femmes et vous avez notamment été responsable des outils numériques des campagnes de Jean-Luc Mélenchon en 2017 et 2012.
Alors je précise aussi à toutes fins utiles qu'on devait recevoir Hélène Hardy, première femme trans à avoir accédé à de hautes fonctions politiques en France, membre du bureau exécutif de Europe Écologie Les Verts. Et elle avait travaillé à l'accord historique signé donc la semaine dernière entre les principaux partis de gauche. On n'a pas pu la recevoir ce soir car nous sommes soumis aux règles sur le temps de parole et qu'on a ni le temps ni l'envie de recevoir l'ensemble des partis politiques qui sont représentés dans le cadre de ces élections législatives. On fera en tout cas en sorte de la recevoir bientôt dans notre émission. Alors Maud Royer, la dissolution de l'Assemblée nationale, c'était donc il y a un peu plus d'une semaine. Premier tour des législatives, c'est dans moins de deux semaines. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste, plutôt combative ou carrément optimiste?
Alors, carrément optimiste, je n'irai pas jusque-là, ce serait un mensonge. Moi-même, j'ai reçu, comme beaucoup de gens et comme beaucoup de personnes LGBT, l'annonce de la dissolution un peu comme vraiment un coup qui nous a pris par surprise et qui nous a un peu sonné. Hein. J'étais en soirée électorale en train de parler des campagnes pour les nouveaux droits que fait l'association Toutes des Femmes depuis justement quelques mois. Ouais. Une campagne qui nous avait permis d'obtenir la mise à l'ordre l'ordre du jour, enfin pas la mise à l'ordre du jour, mais le dépôt d'une proposition de loi transpartisane avec tous les groupes de gauche, y compris des groupes de la majorité, pour la déjudiciarisation du changement d'état civil, qui est une avancée majeure pour les droits des personnes trans en France.
On va en reparler,
effectivement. Et puis on apprend voilà, que l'Assemblée est dissolue et on ne sait pas en fait si dans deux semaines on va avoir la même situation qu'auparavant, c'est-à-dire un statu quo où peut-être on peut faire basculer une majorité en faveur de l'avancée des droits. On va avoir une majorité à gauche, parce que c'est quand même aussi quelque chose possible qui serait plutôt en faveur de nos droits, ou, et ça c'est évidemment le scénario du pire et celui qui fait très peur aujourd'hui, une majorité qui combattrait nos droits et les ferait activement reculer. Et là-dessus, le RN et en fait aussi ses alliés de LR ont pas attendu entre guillemets d'avoir une majorité pour attaquer nos droits. On a eu ces derniers mois une attaque sur les droits l'accès aux soins des enfants trans, avec une proposition de loi qui a été adoptée au Sénat, et c'est ça qui nous fait très peur.
Qui pour l'instant ne passe pas à l'Assemblée nationale, mais on peut se poser la question de ce qui pourrait se passer, et on va y venir dans un instant. Quel regard vous portez sur ce front populaire donc, qui réunit une gauche assez large, j'ai envie de dire de Philippe Poutou à François Hollande?
Ben, nous, on est une association, c'est-à-dire que notre rôle, bon, moi j'ai milité avant dans des partis politiques, ça a été dit, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Donc on est une association, notre rôle c'est de défendre les droits des personnes trans, les droits des femmes, bon, et les droits LGBT en général, hein, puisqu'on bosse avec l'ensemble du mouvement LGBT, quel que soit le gouvernement en place, c'est-à-dire face à la gauche, face à la droite, empêcher qu'ils reculent, permettre qu'ils avancent, etc. Et le but aussi de notre association, c'est d'être toujours là dans les prochaines années, d'être toujours là dans 30 ans et de pouvoir toujours faire ce travail. Ce dont on a peur aujourd'hui, c'est que ce ne soit plus possible avec l'extrême droite, c'est-à-dire qu'il y ait une répression contre les mouvements LGBT, comme ça s'est vu dans pas mal de pays, et en fait, je reprends la proposition de loi tout à l'heure, mais qui pénalisait le fait de permettre à des enfants d'accéder à une transition médicale, ça veut dire potentiellement des dissolutions d'associations, vraiment des choses qui sont très graves et qui pourraient affecter le mouvement LGBT sur la durée, au-delà même du fait que le RN garde le pouvoir à l'issue des prochaines élections présidentielles ou législatives. Donc pour nous, le Front populaire, c'est vrai que c'est la proposition en face de répondre à cette offensive de l'extrême droite par une contre-offensive qui soit en faveur de nouveaux droits pour les personnes LGBT, mais aussi une contre-offensive contre le racisme, une contre-offensive contre en fait tout ce à quoi s'oppose le Rassemblement National, et pour défendre toutes les catégories de population qui attaquent le Rassemblement National.
Et voilà, on va pouvoir parler ensemble des menaces que fait peser peut-être une accession du RN au pouvoir et de l'espoir que peut représenter ce Front populaire. Avant d'aller un peu plus loin, avec toi Victor, on va rappeler les enjeux de ces élections législatives.
Oui Colin, et pour commencer, on va rappeler que pour dissoudre, Emmanuel Macron s'est appuyé sur l'article 12 de la Constitution. C'est un article assez bref, le voici. Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de 15 jours. Enfin, il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. Alors c'est bref, mais ça comporte beaucoup d'informations importantes. D'abord, et c'est assez caractéristique de la manière de gérer son pouvoir depuis 7 ans, Emmanuel Macron aurait dû consulter son Premier ministre avant de prendre sa décision. Or, d'après son propre storytelling, il l'en a juste informé. Pas de quoi pouvoir contester la décision juridiquement, mais ça en dit long sur sa manière de faire. Ensuite, on a beaucoup entendu comme argument qu'à cause du délai de 20 à 40 jours et contraint par les JO, Macron n'avait pas d'autre choix. Or, rien ne l'empêchait d'annoncer le 9 juin que l'Assemblée serait dissoute, le 9 septembre par exemple, et de laisser aux partis le temps de s'organiser pour mener une campagne digne de ce nom à la rentrée, après les fameux Jeux Olympiques et Paralympiques. Enfin, et c'est l'élément le plus important pour nous, l'Assemblée ne peut plus être dissoute pendant un an après ces élections.
Même en cas, Victor, de démission d'Emmanuel Macron.
Et oui, Colin. Donc si aucune majorité ne se dégage de ce scrutin, on pourrait se retrouver encore plus bloqué qu'on ne l'était avant, et ce, même si Macron décidait de démissionner et que nous élisions un ou une nouvelle présidente de la République.
Mais alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer au lendemain du 7 juillet, donc le deuxième tour de ces élections?
Alors la situation est extrêmement floue actuellement et il y a plusieurs scénarios possibles. Le premier, le plus simple mais loin d'être le plus probable, Renaissance et ses alliés redeviennent majoritaires et Emmanuel Macron nomme le Premier ministre qu'il désire, comme le stipule l'article 8 de la Constitution. S'il s'agit d'une majorité absolue, le gouvernement tiendra sans souci, c'est la configuration de la majeure partie des précédents gouvernements de la Ve République. Si c'est une majorité relative, il leur faudra miser sur le « sens des responsabilités », et je mets beaucoup de guillemets derrière cette expression, d'une partie de leurs oppositions, pour ne pas être renversés à court terme. C'était le cas depuis 2022 pour les gouvernements Borne et Attal, par exemple. Le second cas, c'est celui où un parti d'opposition obtiendrait la majorité absolue. Dans ce cas, le président nomme un Premier ministre, mais techniquement et dans l'usage, il ne le choisit pas. À proprement parler, il doit prendre celui que le camp d'en face lui présente, c'est-à-dire en général le ou la leader de l'opposition. On serait alors dans une cohabitation, comme pendant la période Chirac-Jospin, qui est la cohabitation la plus récente.
D'accord. Et alors que se passe-t-il si un parti qui n'est pas Renaissance arrive en tête, mais sans majorité absolue Victor ?
Et c'est effectivement le cas de figure le plus probable. Là, Macron devra nommer un ou une première ministre issue de cette majorité, qui devra a priori faire une coalition plus large ou trouver des accords au cas, par texte de loi. Cette configuration qui ne s'est jamais produite encore est la plus instable en France, j'entends, est la plus instable pour former un gouvernement et risquerait de déboucher sur des mois de paralysie, voire, si vous avez bien retenu, une année entière,
au moins,
s'il fallait attendre une nouvelle dissolution pour y voir plus clair. La Belgique ou l'Espagne ont beaucoup de leçons et d'expérience à nous donner là-dessus parce qu'elles ont connu ce genre d'épisode.
Et voilà, tout est clair. Merci beaucoup, Victor. Alors, Maud Royer, vous étiez présente dans le monde politique au moment de la NUPES, donc la précédente expérience d'union de la gauche assez forte. Vous étiez toujours à la France Insoumise. Est-ce que la semaine dernière, vous avez retrouvé un peu cette peut-être une espèce de fièvre un peu galvanisante autour de ce nouveau Front Populaire ?
Ben, je pense que beaucoup l'ont retrouvé. Et oui, ça fait aucun doute. Nous, il y a eu un enjeu. Enfin, il y a une fièvre et il y a eu aussi une inquiétude, que bien entendu que notamment sur l'accord programmatique. Je pense que c'était les partis qui étaient le plus favorables aux droits, enfin à l'avancée des nouveaux droits qui imposaient un peu leur rapport de force. En 2022, c'était moins évident aujourd'hui. Finalement, ce qui en ressort aujourd'hui dans le programme du Front Populaire est plutôt chouette. Il y a plein de choses très chouettes pour les personnes LGBT et qui ne sont pas défendues par la majorité. Je pense que c'est important de le souligner. Sur le changement d'état civil, par exemple, on n'a aucune réponse de la majorité depuis déjà... l'ancienne majorité. Feu la majorité, oui. Donc, on n'a aucune réponse, en tout cas, de Renaissance depuis très longtemps. Donc oui, on est plutôt contente de voir à la fois cette dynamique et à la fois en fait qu'aujourd'hui, à gauche en tout cas, il semble plus y avoir de discussion sur la nécessité de nouveaux droits et notamment en fait ceux qui ont été toujours laissés de côté dans ces dernières années, c'est-à-dire les droits des personnes trans, sur le changement d'état civil, mais aussi sur la PMA, sur la filiation. Il y a quelque chose de très important et très intéressant dans le programme du Front Populaire sur la filiation, qui réforme le droit de la filiation pour en faire un truc par reconnaissance universelle plutôt que un droit pour les hétéros dans le cadre du mariage, un droit pour l'adoption, un droit pour la PMA, etc., avec un droit pour la PMA des lesbiennes qui n'est pas le même. Donc oui, c'est plutôt intéressant ce qui se passe à ce niveau-là. En tout cas, on voit que ces questions n'ont pas été laissées de côté. Donc ensuite, c'est pas les associations qui font campagne, mais il y a plein d'associations qui se sont inscrites dans la dynamique plus large du Front Populaire, c'est-à-dire pas la coalition de partis et pas un appel au vote, mais aussi le mouvement social, les manifestations. Il y a une manifestation dimanche appelée par les féministes, dont on fera partie aussi, en plus évidemment des marches des fiertés. Et je pense que c'est cette dynamique-là aussi qui est extrêmement importante et qui permet une convergence du monde associatif, politique et de toute la société civile, comme on n'en a pas vu depuis longtemps, quoi.
Alors, rentrons peut-être un peu plus dans le détail de ce que propose le nouveau Front Populaire pour les LGBTI. Vous en avez parlé tout à l'heure de cette campagne « Juge pas mon genre » qu'on a un petit peu évoqué aussi dans cette émission. C'était une campagne, une pétition que vous avez fait circuler pour demander donc la déjudiciarisation du changement de genre à l'état civil. C'est d'ailleurs l'une des propositions du nouveau Front Populaire, vous le disiez, changement d'état civil juste sur passage en mairie. Pourquoi est-ce que c'est si important important pour vous. Je sais qu'il y a un député, la France Insoumise, qui a, vous en avez parlé, son nom m'échappe à l'instant.
Andy Carbrat.
Voilà, merci beaucoup. Qui a porté cette proposition à l'Assemblée nationale, mais qui disait, je sais que c'est qu'un début, en fait. Le changement d'état civil, c'est pas ce qui va donner de l'argent pour les transitions, etc. Donc pourquoi est-ce que c'est si central? Pourquoi est-ce que vous avez, vous, voulu, avec toutes des femmes, votre association, défendre cette proposition?
Alors, pour rendre à Mélanie ce qui est à Mélanie aussi, c'est un texte qui a d'abord été déposé par Mélanie Vogel au Sénat, voilà. Et qui a été déposé ensuite
sénatrice
par Andy Carbrat,
voilà,
sénatrice écologiste, et qui a été déposé à l'Assemblée nationale.
Malheureusement,
par Andy
le Sénat étant ce qu'il est.
Oui, voilà. Bon. ça a beaucoup plus de chances d'être un jour. Enfin, ça avait beaucoup plus de chances dans l'ancien Parlement d'être mis à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Mais Andy Carbrat a réussi quelque chose d'assez fou pour le coup, qui est de le faire co-signer par tous les présidents de groupes de gauche et des députés de la majorité, enfin il y a plus d'une centaine de députés qui ont co-signé la proposition de loi. Alors pourquoi le changement d'état civil, c'est ultra important pour nous? Alors déjà c'est quelque chose que réclament les associations depuis très 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 longtemps. Parce qu'en France, bon, la situation actuelle, c'est que jusqu'en 2016, il n'y avait pas de loi sur le changement de sexe à l'état civil, sur le changement administratif. Et donc, il y avait une jurisprudence qu'utilisaient les juges qui imposait aux personnes d'être stérilisées. Donc, ça veut dire que jusqu'en 2016, on a stérilisé en France des milliers de personnes trans, on a imposé la stérilisation à des milliers de personnes trans qui voulaient simplement changer de sexe à l'état civil. Depuis 2016, on peut le faire, mais il y a toujours un juge qui décide de ça et la procédure est très longue, elle prend plus d'un an et surtout, on impose à la personne de révéler des choses très intimes, d'avoir vécu dans le genre qu'elle demande depuis là aussi plus d'un an. Et en fait, pourquoi ça c'est absurde? C'est que ça crée artificiellement des discriminations. C'est-à-dire qu'on a l'État qui impose une procédure qui crée des discriminations, ben, tout simplement parce que quand vous allez retirer un colis à la poste, ou pas tous les jours, mais quand vous cherchez un emploi ou un logement, et que ben voilà, vous êtes une femme, vous vous présentez comme femme, ou vous êtes un homme, vous vous présentez comme homme, et ça fait aucun doute. Et puis vous devez montrer vos papiers pour signer le contrat, etc. La personne découvre que vous êtes trans parce que vos papiers ne sont pas cohérents avec la manière dont vous vous présentez. En fait, ce changement d'état civil difficilement accessible, il oblige les personnes à sauter en permanence, et notamment dans des situations assez centrales qui sont l'accès à l'emploi, l'accès au logement, tous ces tas de choses. Et donc, il crée des discriminations. Et en faisant une procédure super longue, on a l'État qui dit tout simplement, pour avoir le droit de vivre un moment de discrimination en changeant votre état civil, la preuve que vous devez apporter, c'est que vous vivez des discriminations depuis un an et demi, deux ans. C'est-à-dire qu'on a une situation absurde où la preuve qu'on doit apporter, c'est le fait de subir déjà
des
discriminations.
Avec, oui, des discours très stéréotypés. On a besoin de mettre en avant des discours très misérabilistes. On en a pas mal parlé, effectivement, dans cette émission. Donc votre pétition, on peut toujours la signer. C'est juste à
mangeur.fr.
On peut toujours
la signer,
voilà. Le programme du Front Populaire, toujours sur les personnes trans, il tient en assez peu de lignes, mais peut-être vous pourrez nous en dire plus. Il y a aussi l'extension de la PMA aux personnes trans, qui est réclamée par les associations depuis longtemps, la mise en œuvre d'un plan pour l'éradication des violences LGBT-phobes. Ça, c'est peut-être un peu plus imprécis, mais le programme a été écrit très très rapidement vu les circonstances. Une augmentation aussi des moyens pour les transitions. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est comment on fait pour faire des enjeux LGBT un enjeu majeur, peut-être au même titre, vous allez me dire si vous trouvez ça pertinent, mais que l'abrogation de la loi sur la réforme des retraites, la hausse des salaires et du pouvoir d'achat, parce que cette campagne, et on comprend très bien pourquoi, elle est beaucoup orientée là-dessus, et les enjeux LGBT, on est habitué maintenant à ça, ils passent quand même beaucoup au second plan. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont complètement absents, et comment est-ce qu'on pourrait faire pour mobiliser autour de ces questions? Oula.
Ben, j'ai envie de dire, là, c'est même pas nous qui avons à nous battre pour que ce soit un enjeu majeur, parce qu'en fait, les droits LGBT, et en particulier les droits des personnes trans, c'est l'extrême droite qui en a fait un enjeu majeur au cours de ces quatre dernières années. C'est-à-dire que on a en 2020 quelques féministes qui ont commencé à un peu lancer le sujet comme ça s'était fait au Royaume-Uni, mais à partir de 2021 on a quand même Valeurs Actuelles qui a fait une et un numéro avec un dossier spécial entier sur les droits des personnes trans, un truc qu'ils n'avaient jamais fait depuis qu'ils existaient. On a Zemmour qui a commencé à en parler sur les plateaux télé, etc. Et en fait l'attaque des droits des personnes trans, en particulier l'attaque sur les mineurs trans, sur quelques autres sujets comme celui du sport dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, etc., c'est devenu en fait un répertoire d'argumentaire de l'extrême droite, au même titre, alors pas au même titre parce que pas autant, mais comme le sont le racisme, l'insécurité et toutes ces paniques morales où en fait on abreuve de fake news un discours médiatique qui sert à faire peur. Donc aujourd'hui, La seule proposition de loi qui a été en discussion pour les droits des personnes trans dans un parlement au cours des dernières années, c'était une proposition de loi de recul des droits déposée par les Républicains et le RN a déposé la même à l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'aujourd'hui, entre guillemets, ce serait vraiment une faute pour le coup de considérer que c'est pas un sujet, alors que l'extrême droite en fait un sujet d'offensive en fait. Et c'est évidemment le boulot de la gauche de répondre à l'extrême droite, et notamment sur ça, et de répondre par la contre-offensive, parce que la seule manière dont on fait reculer idéologiquement l'homophobie, la transphobie, l'histoire l'a montré, c'est en faisant concrètement avancer les droits. Le mariage pour tous, ça a fait reculer l'homophobie indéniablement, même si au moment des débats, il y a eu évidemment une augmentation de la violence.
On l'aura compris, donc ce nouveau Front populaire, il représente un vrai espoir, même si vous n'êtes pas totalement optimiste, comme vous l'avez dit. Avant juste d'arriver ou peut-être aux conséquences d'une arrivée du RN au pouvoir, face à ce nouveau Front populaire, Maud Royer, il y a des alliances Les Républicains, Rassemblement National, même quelques alliances Renaissance, Les Républicains qui se sont montées localement. Est-ce que vous, ça vous inquiète ?
Ça, je ne sais pas si ça nous inquiète ou pas. Ça ne nous surprend pas, en tout cas. LR et le RN se sont alliés sur la question de la transphobie. LR, le RN et Renaissance se sont alliés sur la loi asile-immigration quand même au cours des dernières années et ont voté ensemble. Donc, il n'y a rien de surprenant à ça. Que le RN fasse des alliances avec LR, à la limite, ça a plutôt même une vertu qui est celle de la clarification politique, c'est-à-dire de montrer que tous ces gens-là sont avant tout des réactionnaires et des gens qui se battent contre les droits des personnes LGBT et des personnes racisées, et que le discours qu'essaie de porter le RN, qu'il est d'abord un parti anti-système, etc., en fait, c'est du vent. Ils sont juste encore plus réacs que les autres, et encore plus racistes et encore plus misogynes, quoi.
Alors justement, dans la nuit qui a suivi le résultat des élections européennes il y a 10 jours, le dimanche soir, à Paris, un jeune homme a été violemment agressé par 4 individus après avoir subi des insultes homophobes et transphobes. Alors parmi les 4 agresseurs se trouvait Gabriel Lousteau, qui est une figure connue de l'extrême droite parisienne, le fils d'Axel Lousteau, un membre du GUD et proche de Marine Le Pen. En garde à vue, l'un des 4 agresseurs a déclaré, je cite, « Vivement dans 3 semaines, on pourra casser du PD autant qu'on veut ». La victoire du RN, c'est aussi une violence LGBT-phobe qui pourrait se libérer, selon vous ?
Ah oui, totalement. Ça, c'est un des plus gros dangers. Je veux dire, il le dit lui-même, l'agresseur, et il le sait, et il le sait très bien. Le fascisme, appelons-le par son nom, ça a été partout dans l'histoire, partout dans le monde, certes une violence étatique souvent, mais aussi beaucoup une violence paramilitaire, de milice, et en fait, le GUD en est une, qui, en fait, que l'État laisse faire et qui est extrajudiciaire, qu'on ne voit même pas. Et oui, enfin, ça fait aucun doute que des violences homophobes, pas juste des violences homophobes d'individus isolés homophobes dans la rue, mais effectivement de groupes militants qui veulent casser du PD, comme ils disent, ça va augmenter et ce sera très probablement beaucoup moins réprimé sous un gouvernement RN que ça ne l'est aujourd'hui, quoi.
Et pourtant, le RN a beaucoup travaillé son image pour rallier l'électorat LGBT+, ou peut-être juste G, on va voir, à sa cause, jusqu'à compter parmi ses élus de nombreux hommes gays, comme on peut parler de Jean-Philippe Tanguy ou Sébastien Chenu, pour citer les noms des ténors du parti, Victor.
Oui, et ce n'est pas nouveau, c'est ce que nous avait expliqué l'historien Mikhaïl Studnicki dans notre émission en janvier dernier.
C'est une tendance structurelle lourde qui en fait existe depuis la fin du 19e siècle. On retrouve des gays, même quelques lesbiennes également, à l'extrême droite depuis la fin du 19e siècle. Et ces homosexuels, ces gays sont attirés aussi par les doubles caractéristiques des mouvements nationalistes. On a d'un côté une homophobie qu'on retrouve encore dans certaines franges de l'extrême droite, mais en même temps, il y a une dynamique aussi homoérotique. Et dans ces mouvements, il y a toujours historiquement une tolérance pour une forme d'homosexualité discrète, pour ne pas dire secrète, et une forme d'homosexualité virile. Donc pour peu que vous colliez à ces deux caractéristiques, vous étiez toléré en restant discret.
Maud Royer, quel regard vous portez sur ce vote gay pour le RN ? On vient d'entendre donc Mikhaïl Studnicki, historien. Comment expliquer en tout cas que ces votes échappent à la gauche aujourd'hui et peut-être comment on pourrait les ramener vers nous ? Est-ce que vous avez une idée ?
Je pense que ce qu'on vient d'entendre là, c'est quand même qu'une partie de l'analyse. Il ne faut pas oublier une dimension très très forte du vote des personnes LGBT pour le RN. C'est l'homonationalisme. C'est l'idée que... l'homosexualité, ce serait un truc de blanc et que l'homophobie, ce serait un truc des immigrés, quoi. Et qu'on résout la question des violences homophobes en virant les immigrés. Évidemment, c'est d'une bêtise sans nom. Il y a autant de personnes homosexuelles, si ce n'est plus, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent l'asile parmi les personnes étrangères qui arrivent en France que parmi la population qui y est déjà. Mais en fait, l'extrême droite propose aux homosexuels blancs un contrat qui est « alliez-vous avec nous et entre guillemets, faites allégeance à une distinction de la société et à une division de la société sur un rapport de race et on oubliera que dans l'échelle du patriarcat, vous n'êtes pas exactement au bon endroit, quoi. » Mais en fait, il n'y a que des idiots pour y croire. C'est-à-dire que, bon, déjà, c'est raciste. Mais à la fin, une fois qu'ils ont fini avec... les immigrés, ils passent de toute façon aux homosexuels. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire nous l'a toujours montré. Et certes, il y a toujours eu des homosexuels dans beaucoup de mouvements d'extrême droite, mais on voit souvent que dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont été aussi rapidement expurgés. C'est l'histoire nous le montre aussi. Hein, c'est ce qui manquait aussi dans l'analyse de tout à l'heure.
Oui, voilà. Alors, on a quand même coupé que 30 secondes d'une émission un peu plus longue. Mais merci de l'avoir rappelé. Vous parlez des immigrés. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des LGBT parmi les immigrés et justement les personnes exilées, et c'est justement ce dont on va parler dans notre page d'actualité du jour.
Le lobby. Radio Campus Paris.
À 20h26, l'actualité de ce mois très perturbée, c'est aussi la journée mondiale des réfugiés. Ce sera le jeudi 20 juin. Salut Zoé.
Bonjour.
Alors à cette occasion, tu viens d'enregistrer un entretien avec Christophe Collier, c'est le vice-président de l'ARDIS, donc l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour, ainsi que Bouba, qui est réfugié et membre du CA de l'ARDIS. On imagine qu'après la loi immigration votée l'année dernière, et alors que le RN pourrait... L'année dernière ou cette année ? J'ai un doute maintenant. Non, l'année dernière.
C'était cette année.
C'était cette année, excusez-moi. Et alors que le Rassemblement national pourrait donc remporter une majorité absolue ou relative à l'Assemblée nationale, il y a de quoi être très inquiet.
Oui, tout à fait. Du coup, l'ARDIS pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour, qui font un travail vraiment monumental d'accompagnement individuel et collectif des exilés. On a parlé en fait des spécificités des exilés LGBT, du fait de raconter cette espèce de récit de soi et un peu qu'il faut fournir en fait, qu'il faut savoir retracer, ce qui est quand même souvent difficile parce qu'on a des biais déjà très occidentaux de ce que c'est que se raconter en étant LGBT. Surtout pour des personnes qui viennent de pays où les représentations existent que très peu ou toujours par la négative. En fait, ce qu'expliquait Christophe Collier, pardon, c'est que c'est compliqué parce qu'on demande aux exilés d'arriver en France et directement de raconter le plus vite possible leur parcours alors que ça prend énormément de temps et que en fait, bah, quand on a passé des dizaines d'années de vie à se cacher, on peut pas juste tout d'un coup faire un coming in et un coming out dans un pays étranger, souvent après un parcours assez traumatique. On a aussi parlé des récentes élections européennes et des lois anti-immigration que portent les partis de droite et d'extrême droite qui se présentent aux élections législatives. Et pour finir, je dirais que l'ARDIS, en ce moment, comme c'est le mois de juin, est très présent dans les manifestations qui seront là à la Pride des banlieues le 22 juin et à la Pride le 29 juin. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, à éventuellement les contacter si vous avez besoin et à les rejoindre.
Eh ben merci beaucoup Zoé, et on va découvrir ton entretien donc avec l'ARDIS ce vendredi 21 juin sur toutes les applications de podcast. Nous on fête pas la fête de la musique, on fête la journée mondiale des réfugiés. Et puis sachez que tous nos épisodes sont aussi à lire sur le site de radiocampusparis.org pour davantage d'accessibilité. Pour conclure cet entretien le plus vite possible, Maud Royer, mais vous allez rester avec nous jusqu'à 21h, comment on fait pour mobiliser autour de soi et faire élire le plus possible de candidats Front Populaire à ces élections législatives?
Faudrait demander pour le coup à quelqu'un qui fait campagne pour le Front Populaire. Non, mais je sais que tous les partis ont des plateformes en place.
Je dis ça aussi parce que votre association s'est positionnée en faveur de
votre... Oui, bien sûr, mais bon, pour le coup, c'est pas nous qui organisons les campagnes quand même. Mais bon, il y a des députés dans toutes les circonscriptions, donc en fait, le plus simple, c'est de contacter leurs équipes. Si on veut vraiment s'impliquer, la manière quand même la plus simple d'aider à une élection, quelle que soit l'élection, c'est d'aller faire du porte-à-porte et de convaincre les gens. Et je pense que là, dans toutes les circonscriptions, c'est ce qui s'organise partout. Et il faut y aller.
Merci beaucoup, Maud Royer, présidente de l'association Toutes des Femmes, pour ce petit vent d'espoir que vous avez soufflé sur cette émission. Vous restez avec nous jusqu'à 21h. À suivre dans le lobby, on parle des Jeux Olympiques et Paralympiques. Quelle place pour les athlètes LGBT ? Peut-on repolitiser cette grande manifestation sportive dont le bilan est pour le moins controversé à ce stade ? On en parle juste après les disques du lobby.
Le lobby. Radio Campus
Paris. Yeah.
Avec XP, salut à toi.
Salut Colin. Colin, je voulais te dire un truc, genre, je comprends pas ce qui se passe en ce moment, rien ne va plus, je ne dors plus la nuit, je fais des cauchemars, tout se casse la gueule, oui. Franchement c'est horrible.
Mais oui, je sais, mais c'est ce qu'on vient de dire avec Maud Royer, le fascisme aux portes du pouvoir, enfin voilà, c'est ça quoi.
Le fascisme ? Ah oui, l'extrême droite, non mais moi je parle pas du tout de ça, ouais. Je parle du fait qu'on n'ait pas d'invité en live cette semaine dans le lobby.
Ah,
ça me fout
gros problème.
En l'air, sérieux. On devait avoir Elton John qui a annulé au dernier moment et du coup patatras.
Ça le coup.
C'est la deuxième fois qu'il nous le fait, on le réinvitera plus jamais. Mais du coup, bon, on va pas cesser à battre non plus, hein. On va quand même essayer de vous passer de la musique et d'en parler. Et de la musique vénère, parce qu'en ce moment, on est vénère de la montée de l'extrême droite, pour le coup. Et pour chanter vénère, il n'y avait pas mieux que la rage du groupe Cuisse, un duo français d'électropop aux sonorités EBM, un croisement entre Nine Inch Nails et Fever Ray, un peu comme si Sexy Sushi avait été remixé par The Hacker, pour ceux qui ont un peu les références. Leur morceau Vénère-toi, que nous allons écouter, parle de tout ce qui se passe en ce moment, même s'il a été composé avant la fameuse dissolution. Je vais reprendre les mots du groupe qui, justement, explique la naissance de Vénère-toi. Le titre « Vénère-toi » est né d'une urgence, un cri du corps et du cœur pour dénoncer la recrudescence des violences et discriminations envers les personnes LGBTQIA+. Pour servir notre propos, nous avons choisi de détourner des discours de personnalités politiques, Marine Le Pen, Marion Maréchal, Éric Zemmour ou encore Emmanuel Macron, qui s'acharnent dans l'espace public, dans les médias, à l'Assemblée, à taper sur notre communauté, qui participent à instaurer un climat de haine envers les personnes LGBTQIA+. La proposition de loi interdisant les transitions de genre chez les mineurs en est un exemple parmi tant d'autres. Quand nous avons écrit « Vénère-toi », nous ne pensions pas qu'elle sortirait dans un contexte aussi révoltant et inquiétant. Et aujourd'hui, face à l'urgence, on a envie de se vénère et de taper du pied tous ensemble. Et ben du coup, Colin et l'équipe du lobby, je vous propose d'écouter tout de suite le duo Cuisse avec le morceau « Vénère-toi » dans le lobby sur Radio Campus Paris.
Thank you.
Est-ce que tout le monde est bien vénère dans le lobby ce soir? C'était Vénère-toi, c'était Cuisse sur Radio Campus Paris, le choix musical d'XP. Merci beaucoup à toi.
Oui, et allez les suivre sur les réseaux sociaux, ouais, c'est Cuisse Musique. Et le prochain EP sort le 18 septembre.
Très voilà. Bien, on suivra ça. Et puis toi, Xavier, XP, pardon, je ne sais plus jamais comment t'appeler. On te retrouve l'année prochaine, car tu sais, c'est notre dernière de la saison.
Je sais, je suis très triste et énervé.
Allez, à l'année prochaine, 20h35.
Le lobby.
Et je crois qu'il faut toujours écouter
Radio Campus Paris.
Et on ouvre notre deuxième dossier de la semaine, celui des Jeux Olympiques et Paralympiques, top départ le 26 juillet avec la cérémonie d'ouverture. Ces Jeux, ils ont été vivement critiqués pour leur bilan écologique et social. Nous, ce soir, on va essayer de parler des enjeux queer de la compétition avec deux invités qui nous ont rejoints.
Et tout d'abord, Alexandre Ranceau, bonsoir.
Vous êtes le vice-président de la Fédération sportive LGBT+. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et à distance, on a la chance de recevoir Marie Patouillet. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes paracycliste, double championne du monde lors des derniers mondiaux de paracyclisme. C'était en mars dernier au Brésil. Vous êtes lesbienne et vous le criez haut et fort. Bienvenue à vous.
Merci beaucoup.
Alors, dans un monde idéal, on ne verrait pas de PD dans le sport, lit-on sur les affiches de la Fédération LGBT+, dans le cadre d'une campagne choc contre les LGBT-phobies dans le sport. Alexandre Ranceau, parlez-nous un peu de cette campagne pour commencer.
Cette campagne, c'est une campagne qui a démarré il y a quelques temps, parce qu'en fait, il y a beaucoup de... C'est une campagne qui se veut être... marquante pour tous les sportifs qui ont du mal à soit démarrer dans le sport, soit à reprendre le sport, soit à se sentir bien dans le sport. Mmh. Et cette campagne, on a commencé à la préparer avec nos partenaires qui est l'agence Rosebif, hein, qui nous a aidé à mettre en place cette campagne, mais avec ce sera en 3 ou 4 temps, parce qu'en fait, pour l'instant, il y a le côté aussi inclusion dans le sport, il y a le côté sortir du placard avec le coming out, il y a le côté comment se dépasser dans le sport également, puisque avec l'appréhension qu'on peut avoir, avec le poids qu'on peut avoir dans le sport, on peut avoir besoin de faire des efforts supplémentaires pour montrer qu'on est aussi bien que les autres, aussi
en tant qu'athlète LGBT.
Voilà, c'est ça, exactement. Et donc tout ça, c'est des points sur lesquels on a essayé d'appuyer, on essaye de les diffuser. C'est vrai que c'est des choses qui sont pas faciles à mettre en place, mais on essaie de faire au mieux.
Pour vous, les Jeux Olympiques et Paralympiques, est-ce que c'est une occasion de parler des LGBT-phobies dans le sport, de visibiliser aussi des athlètes queer? J'imagine aussi c'est l'occasion d'envoyer un message au monde du sport amateur et au-delà, en fait, à tout les personnes queer marginalisées. Est-ce que vous pensez que le sport a ce pouvoir-là, Alexandre Ranceau?
Le sport, c'est un des seuls milieux, à mon avis, qui permet de rassembler tout le monde, quelle que soit la qualité, on va dire, sportive, la qualité entre ces personnes, leur genre, leur façon d'être. Le sport rassemble. Donc, c'était évidemment une des manières de faire en sorte que les Jeux Olympiques puissent le montrer. Et c'est un événement fort pour nous, pour montrer en fait que c'est possible. Quoi.
Marie Patouillet, vous êtes d'accord avec ce que dit Alexandre Ranceau?
Moi, je pense que le sport amateur rassemble. Ça, c'est sûr. Ouais. Le sport de haut niveau, malheureusement, on y a encore beaucoup à déconstruire. L'exemple... le plus marquant, c'est tout simplement que pour le moment, il n'y a pas d'inclusion ou très peu d'athlètes trans.
Et on va en reparler, effectivement.
Donc, est-ce qu'ils rassemblent vraiment dans le haut niveau? Pas assez à mon goût. Voilà, il y a trop peu d'athlètes qui sont en capacité de faire un coming out et d'assumer pleinement leur orientation sexuelle dans leur environnement sportif. Donc, je pense qu'il y a pas mal de déconstruction à faire et de progrès à faire, mais qu'on peut utiliser en tout cas les Jeux, les Olympiques et Paralympiques, pour essayer de transformer un peu l'essai.
Ouais. Alors Marie Patouillet, avant de continuer, il faut que vous sachiez que dans cette équipe, il y a quelqu'un qui est très fan de vous, c'est notre chroniqueuse, Zoé, on t'écoute.
Tout à fait. Comment parler des JO au lobby sans évoquer votre existence, Marie Patouillet? Pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, avant qu'on vous pose quelques questions, je vais donc tenter de résumer vos faits et gestes, et ils sont nombreux, beaucoup trop nombreux pour une seule personne. Laissez-nous un peu de place dans le game, s'il vous plaît. Donc Marie Patouillet, vous avez 35 ans, vous êtes médecin, vous êtes championne du monde, vous avez remporté un nombre incalculable de médailles dans votre discipline, le paracyclisme. En 2021, vous êtes nommée chevalier de l'Ordre National du Mérite, et après avoir cherché ce que c'était, j'ai lu que cet ordre récompensait les mérites distingués militaires ou civils rendus à la nation française. Wow. Moi, je pense que vous avez surtout rendu service à la nation queer. Un peu plus loin sur Google, je tombe sur une interview de vous qui dites que votre devise, c'est « C'est en visant la lune qu'on atterrit dans les étoiles ». C'est une phrase de Oscar Wilde revisitée. Déjà, je valide complètement la ref au Dandy Gay le plus connu d'Angleterre. Et je vous enjoins à prendre exemple, si on vous demande votre devise, n'hésitez pas à sortir une citation d'un artiste homosexuel, on dit que ça porte bonheur. Par ailleurs, vous faites de la musique, vous aimez la nature, voir vos amis et les Legos. Alors étonnant, rare, goofy, j'ai hâte d'en savoir plus sur cette passion. Personnellement, je vous imagine en train de construire des pistes cyclables en Lego pour vous entraîner mentalement à gagner les JO, mais peut-être que je m'avance et qu'en fait vous faites juste des débuts de murs de maison comme tout le monde et que vous aussi vous n'arrivez pas à les empiler bien comme il faut. Et ça me rassure parce que vous ne pouvez pas avoir tous les talents, c'est beaucoup trop pour une seule personne. Bref, je reprends mon souffle. Vous nous intéressez entre autres au lobby parce que vous êtes ouvertement lesbienne. Vous avez rejoint l'équipe des ambassadeurs et des ambassadrices de la Pride House France, un événement qui défend depuis 2010 l'inclusion par le sport dans l'équipe compétition sportive internationale, des Jeux Olympiques et Paralympiques aux Coupes du Monde. Coupe du Monde, coupe de cheveux. C'est par la capillarité, entre autres, que vous exprimez votre soutien à la commu.
Wow.
Vous vous teignez souvent les cheveux avec divers motifs, au pif les couleurs du drapeau LGBT. J'aimerais beaucoup savoir si vous les faites vous-même, mais peut-être suis-je bien naïve sur le train de vie des stars. Côté mode, vous n'êtes pas en reste. Vous avez récemment fait la une du magazine Elle aux côtés d'athlètes inspirants et inspirantes et vous arborez régulièrement des tenues flamboyantes grâce à vos nombreux partenaires dont nous tairons les noms par souci d'anticapitalisme. Voici en quelques mots le portrait de notre invité que nous sommes ravis d'accueillir au lobby puisque nous encourageons toute initiative visant la promotion du génie lesbien, des queers en général et que nous savons à quel point le sport, surtout à un niveau professionnel comme vous le disiez tout à l'heure, peut être le vivier de comportements LGBT-phobes et qu'il est souvent difficile de s'y faire une place. Bienvenue dans cette émission, Marie Patouillet, vous avez pour le coup toute votre place.
Alors Marie Patouillet, une petite réaction à cette chronique de Zoé.
Elle est longue.
Voilà, on va...
j'ai juste se rassurer, j'ai quand même... Je ne sais pas tout faire, et en l'occurrence, je chante très faux.
Ah bon,
ça me rassure.
Un mythe est brisé. Alors comme tu le disais, Zoé, on a la chance de recevoir une des athlètes queer qui va participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques cet été, enfin aux Jeux Paralympiques d'ailleurs en l'occurrence. Il faut savoir qu'il y avait 22 athlètes ouvertement LGBT+, au JOP de Tokyo. C'était un record. J'ai pas trouvé les chiffres cette année pour les Jeux de Paris. Vous ne les avez pas non plus, Alexandre Anso. Mais peut-être que moi, j'aurais bien voulu que peut-être vous nous présentiez des athlètes LGBT, soit qui participent aux JO, ou peut-être pas, ou peut-être juste des athlètes un petit peu visibles que vous auriez en tête aussi.
Alors, je n'ai pas d'athlète particulièrement en tête, enfin, à mon niveau, parce qu'en fait, on est une association plutôt de loisirs. Et donc, du coup, effectivement, on a plus à cœur de faire en sorte que le sport soit un sport pour tous et qui rassemble pour tout le monde. Voilà. En revanche, évidemment, on suit aussi le haut niveau et on voit aussi dans les actualités, en fait, les acteurs, on va dire... du jour qui, au fur et à mesure, font leur coming out, par exemple, qui sont, par exemple, en rugby, là, on l'a vu il n'y a pas longtemps, ou aussi des athlètes de haut niveau qui pourraient participer à des épreuves plus costauds, comme par exemple Alba Diouf, qui a un certain niveau aussi en termes d'athlétisme, et qui ne participe pas, par exemple, au-delà de certains niveaux, on va dire, départemental, alors qu'en fait, elle a le potentiel pour.
En raison de sa transidentité, je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait.
Voilà.
Il y a des situations comme ça qui sont particulières et effectivement il faut faire en sorte que ça change.
J'ai lu qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui faisaient leur coming out. Pourquoi à votre avis, Marie Patouillet?
Alors dans le haut niveau?
Alors oui, je crois.
Beaucoup plus, j'irais pas jusqu'à dire beaucoup.
Pas beaucoup plus, mais en tout cas plus de femmes.
En vrai, en France. Je ne suis pas capable d'en citer beaucoup.
D'accord, alors autant pour moi, vous vous sentez un peu seule finalement.
Ils sont publiquement out, hein, je parle.
Ouais.
Est-ce que c'est plus facile? Je ne pense pas. Mais après, ce n'est que ma théorie. Mais en tant que femme dans le sport de haut niveau, on est quand même bien écrasé par une discrimination qui est celle du sexisme. Et bref, qui être écrasé par une deuxième, en fait, ça ne change pas grand-chose. Alors que quand on est un homme, il y a quand même dans le sport de haut niveau et qu'on répond au code hétéropatriarcal on bénéficie de certains privilèges et je pense que c'est beaucoup plus dur du coup de sortir de ces privilèges en dévoilant publiquement son homosexualité. Voilà, c'est vraiment ce que je pense. Nous en tant que femmes, on a une première tare sur le front. Une deuxième, ça change pas, ça change pas grand chose.
Donc vous diriez que parler publiquement de votre homosexualité.
Pour moi, c'est pas plus facile. C'est pas, enfin, il n'y a pas plus voilà. facile ou plus difficile.
J'allais vous poser la question et ça n'a pas forcément été un frein. Peut-être même au contraire, pouvoir être plus libre de parler de son orientation sexuelle. Peut-être que ça a été particulièrement émancipateur.
Oui, dans tous les cas, ça. Enfin, une fois qu'on a passé. Qu'on passe au-dessus des remarques lesbophobes. Oui, c'est libérateur, parce que dans tous les cas, on est vraiment soi-même. Et quand on parle de sport de haut niveau, on parle de performance. Et la réalité, elle est qu'on ne peut être performant que quand on est vraiment en phase avec soi-même. Et c'est compliqué de devoir s'inventer une autre vie pour performer. Et je plains vraiment, sincèrement, tous les athlètes qui se sentent pas assez, on va dire, en sécurité pour pouvoir exprimer pleinement leur orientation sexuelle.
Justement, je voulais vous poser la question, Alexandre Anceau, qu'est-ce qu'un athlète, alors peut-être en France déjà, a à perdre à faire son coming out, selon vous ?
C'est une question qui est assez complexe, mais peut-être le regard des autres, la façon de ne pas savoir comment se retrouver sur un terrain, par exemple, et avoir honte d'arriver, de se poser des questions sur sa façon de pratiquer le sport, essayer de le faire de manière en aparté, alors qu'un sport, ça peut être aussi un sport collectif. Enfin, il y a plein de façons qui fait que, bah, en fait, le sport, c'est quelque chose qui est... c'est un domaine où on se retrouve avec plusieurs, et c'est un moyen aussi d'intégration. Du coup, à partir du moment où on se retrouve écarté, ça peut être un engrenage compliqué derrière.
L'inclusion, l'ouverture et le respect de chacune et de chacun sont au cœur des valeurs du sport et des Jeux Olympiques et Paralympiques. En tant qu'organisateur du plus grand événement sportif au monde, Paris 2024 s'engage pour rendre notre société plus inclusive et faire progresser la lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle ou de genre en France et dans le monde. C'est ce qu'a affirmé Tony Estanguet, c'est le président de Paris 2024. Moi, j'ai l'impression, mais voilà, vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout un expert du sport, que ce genre de grandes phrases sur l'inclusivité dans le sport, j'en ai beaucoup entendu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alexandre Anceau, en tant que vice-président de la Fédération sportive LGBT+, est-ce que ce n'est pas toujours un petit peu un vœu pieux à la fin, en fait ?
Ah, c'est sûr que c'est quelque chose qui est compliqué à obtenir. Un exemple, on peut faire des tournois, des compétitions qui sont genrées. Maintenant, après ça, l'accès à compétition sur les tableaux non genrés est extrêmement compliqué. C'est aussi un des challenges qu'on a d'essayer de comprendre comment on pourrait aménager certaines compétitions pour les ouvrir de manière large à tout le monde. Enfin, d'une certaine manière, où le genre ne soit pas, par exemple, une catégorie dans des disciplines. Il y a plusieurs autres façons de faire, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très sensibles.
Vous, Marie Patouillet, qu'est-ce que vous en pensez ? Je précise aussi que pendant ces Jeux Olympiques et Paralympiques se tiendra la 24e Pride House. Zoé en parlait dans sa chronique. Vous êtes une des ambassadrices de cette Pride House. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit et qu'est-ce que vous espérez voir sortir de ces événements.
La Pride House, en fait, ça va être un lieu... Alors, il me semble que pendant les Jeux Olympiques, elle sera située au Rosa Bonheur sur Seine.
Exactement, oui, Invalide.
Pendant les Jeux Para, il sera au village, au Club France, enfin à la Villette, avec toutes les autres festivités. Ce sera un lieu qui déjà sera créé pour célébrer les athlètes LGBT qui seront aux Jeux et également aussi pour continuer à éduquer, à informer et à déconstruire. Tout ça dans une ambiance un peu festive et sportive. Donc voilà, moi après, ce que je remarque comparé à Tokyo, moi à Tokyo, en tant qu'athlète paralympique, je n'ai jamais eu vent et une notion de l'existence d'une Pride House pour les Jeux Para. Visiblement, elle existait, mais en tout cas, athlète français, on n'a jamais entendu parler. Là, je suis quand même contente de savoir qu'elle existe pour les Jeux Paralympiques. Et je suis assez, je suis fière de d'être ambassadrice.
Et justement, vous faites référence aux Jeux de Tokyo. Si j'ai bien compris, c'est les Jeux de Tokyo pour vous, ça a été une sorte de détonateur, un petit peu pour prendre la parole publiquement sur votre orientation sexuelle, sur les discriminations LGBT-phobes, misogynes qui ont lieu dans le sport. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu pour que vous ayez ce déclic là ?
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai préparé mes Jeux de Tokyo en visant vraiment uniquement la performance. Et pourtant, je fais deux médailles de bronze là-bas, ce qui est pas ridicule. Et pour autant, je rentre avec énormément de frustration, énormément de colère. Et je réalise que toutes les remarques que j'ai subies, qui sont à la fois lesbophobes, à la fois sexistes, ont vraiment un peu gâché mon aventure japonaise. Et puis en parallèle, j'ai un magazine qui s'appelle Lesbiens Raisonnables qui me contacte pour un article. Et au début, je me dis, mais à quoi bon? Moi, je suis out dans toutes mes sphères de vie. Ça sert à quoi d'en parler? Et avec cette colère que j'avais, que j'ai subie d'un point de vue personnel, en fait, je me suis dit que pour moi, ça n'avait aucun sens d'aller de préparer, parce que des jeux, ça se prépare sur 3 ou 4 ans, de préparer les prochains jeux si, à côté de ça, je ne prenais pas la parole et je n'essayais pas, à mon niveau, d'essayer de faire bouger un peu les choses, quoi. Et donc, c'est comme ça que, avec tout mon staff, hein, mes entraîneurs, tout ça, tout le monde était informé et m'ont soutenu, du coup, depuis le début, sur le fait que, oui, je vais m'entraîner, mais en même temps, j'essaierai, tant que je peux, de prendre la parole sur ces sujets-là.
Alors, les grandes absentes de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, ce sont les personnes trans et notamment les femmes trans. Vous en avez parlé tout à l'heure, Marie Patouillet. Elles sont souvent accusées de tricher et même d'être avantagées du fait de leur fort taux de testostérone, Victor.
Oui, et écoutez ce qu'en disait Félix Pavlenko. Il est doctorant en études de genre et il a travaillé justement sur les pratiques sportives des personnes trans. On l'avait reçu dans le lobby en mai 2021.
On a l'impression, dans ce qui est, notamment dans le traitement médiatique, c'est qu'il y aurait des personnes trans qui viendraient dans l'espace sportif pour gagner des compétitions, et notamment les femmes trans. Alors, ce qu'on observe quand on fait des enquêtes ou des entretiens avec des sportives et sportifs trans, c'est que la première chose qui apparaît, c'est qu'il y a un désengagement de la pratique sportive. La plupart des personnes trans, en fait, arrêtent le sport en début de transition. Et pour les personnes qui jouent à haut niveau, il y a presque un choix à faire, en fait, entre la carrière sportive et le fait de transitionner. Ce qui montre qu'il y a bien une impossibilité du monde sportif d'accueillir les personnes trans.
Maud Royer, vous êtes restée avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Toutes des Femmes. Qu'est-ce que ça vous inspire de cette situation? Je sais que l'association a beaucoup communiqué sur cette question.
Ben, on n'a pas seulement communiqué, mais c'est même un sujet sur lequel on s'est pas mal investi ces dernières années. Parce que on a plusieurs sportifs dans l'association, évidemment, qui ont vécu cette expérience dont on parle de simplement retrait, y compris dans la pratique amateur, quoi, de trouver une équipe avec qui elle puisse pratiquer. C'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Mais aussi, on a dans notre asso notre responsable au sport, Ava Valestoledano, qui est une athlète de haut niveau, qui a été exclue d'une compétition de kayak, des compétitions de kayak il y a quelques années. Elle vivait en Norvège et elle faisait beaucoup de kayak là-bas. Et en fait, du coup, on a commencé à bosser sur le sujet. Et c'est vrai que, il y a cette offensive, j'en parlais, le sujet il a été monté de toutes pièces par l'extrême droite tout à l'heure, et c'est finalement nous, on répond à cette offensive. Et donc il y a eu ce groupe d'experts lancé par le ministère des sports il y a un peu plus d'un an sur les athlètes trans dans le sport de haut niveau, dans lequel on siège, dans lequel Ava Valestoledano siège du coup pour d'autres des femmes, dans lequel il y a aussi Eric Arassus qui était à la Fédération Sport à la Fédération Sportive LGBTI ce groupe d'experts, malheureusement, il regroupe beaucoup de médecins qui sont pas très experts de la question, alors qu'en fait l'angle médical sur cette question, c'est pas forcément le plus approprié. Faut déjà se poser la question de: est-ce que c'est pertinent de poser cette question? Est-ce que c'est pertinent de considérer la transidentité d'une personne comme quelque chose d'important? En réalité, on parle des forts taux de testostérone, mais la plupart des athlètes trans ont des profils hormonaux qui sont très proches du fait des traitements de ceux des athlètes cisgenres. Et dans toutes les compétitions où il y a des catégories de genre, il y a déjà des règles de taux hormonaux. Il y a déjà des règles qui disent qu'on soit trans ou pas, si on a plus de X taux de testostérone, on n'a pas le droit de concourir.
Qui pénalise certaines femmes cis aussi, c'est plus rare.
On n'a pas le droit de concourir dans la catégorie femme. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a aucune raison d'ajouter des contrôles, il n'y a aucune raison de poser une question supplémentaire pour les athlètes trans. Il y a déjà des contrôles antidopage qui sont en fait ceux par lesquels on fait la régulation des catégories genrées en fonction des taux hormonaux. Et c'est y compris la position de l'Agence française antidopage qui est de dire qu'il n'y a aucune raison d'ajouter des contrôles à ces contrôles-là qui existent déjà et qui règlent en fait la question des athlètes trans comme des athlètes cis à partir du moment où on veut faire des catégories genrées, ce qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, se questionne. On pourrait aussi faire des catégories de poids ou des catégories je ne sais quoi dans tous les sports. Pourquoi le genre comme catégorie? C'est un truc qui remonte au 19e siècle et qui a d'abord été inventé pour exclure les femmes des compétitions des hommes.
Marie Patouillet, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous pose la question aussi parce que c'est vous-même qui avez parlé de l'exclusion des personnes trans des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est une parole, vous, que vous avez aussi envie de porter en tant que personne queer pendant ces Jeux?
Oui, pour revenir en plus sur les tests de testostérone, évidemment, ça ne concerne que les athlètes féminines. On ne va pas les doser, les athlètes masculins, de savoir s'ils ont trop de testostérone ou pas. Effectivement, c'est un message que je partage. Moi, l'expérience que j'en ai, c'est que le monde du haut niveau est très peu informé et très peu éduqué à la notion de transidentité. Et du coup, il y a un peu... ces espèces de réponses de rejet, en fait, par, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas par un manque d'éducation, ça c'est sûr. Parce qu'il me semble que même Alba Diouf, elle a les taux de testostérone qui remplissent les normes demandées, en fait. Et pour autant, on n'arrive pas non plus à la faire participer à un championnat au-delà d'un niveau régional, quoi. Donc c'est que finalement, même ces taux-là ne suffisent pas à inclure... les personnes trans. Ouais. Et sans vous dire de bêtises non plus, il me semble qu'il y a une méta-analyse canadienne qui a montré que toutes les études qui avaient été menées pour exclure les athlètes trans des compétitions, en fait, n'étaient pas si fiables que ça et qu'il y avait beaucoup de biais. Et qu'il serait peut-être temps de faire des études et de la recherche neutre.
Marie Patouillet, malheureusement, on va déjà devoir conclure cette émission rapidement si c'est possible. Les Jeux Olympiques, ça va être un petit peu votre adieu au sport, du moins en compétition. Vous allez prendre votre retraite d'athlète et reprendre votre vie de médecin. Est-ce que vous pensez que votre voix, elle pourrait faire des émules dans le monde du sport, rapidement si possible?
Est-ce que je pense ça? Ce serait un peu... non, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, si elle peut toucher ne serait-ce que quelques personnes, ce sera déjà une mission réussie.
Eh ben merci, ça va être notre mot de la fin. Merci beaucoup Marie Patouillet d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup Alexandre Anceau, vice-président de la Fédération LGBTI+, sportive, la Fédération sportive LGBTI+. C'est presque la fin de l'émission. On va la conclure avec notre traditionnel agenda. Qui veut commencer? Peut-être Xavier, qui est sur ma gauche.
Bah, je vous invite évidemment le 29 juin à la soirée de la Pride de Discoquette, mon collectif autopromo. Il y aura des scènes ouvertes drag king, queer et king avec 7 heures de clubbing. Et on va faire aussi une salle avec que des drag en DJ set.
Mais non.
Je dirais pas qui va venir, mais...
Et on peut dire quand même qu'il y a quelqu'un qu'on connaît bien dans cette équipe qui sera là.
Oui, pardon, Miros, lave-toi les mains, notre cher... Olga Auguste sera parmi les membres du jury de la scène ouverte drag.
Donc il faut absolument y aller. Victor,
moi je vous conseille Orlando, ma biographie politique de Paul B. Preciado, qui est en ce moment au cinéma et dans lequel on a notamment le plaisir de retrouver Janice Sarraoui, qu'on avait reçue au lobby et dont on vous recommande le livre Révéler mes visages, coécrit avec Talma Desta, qu'on a aussi reçu au lobby.
Oui, on
et
a reçu tout le
éditions
monde
HarperCollins.
Zoé,
oui, moi je voulais... Le micro marche pas.
Si, 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 elle marche. Ouais, ouais.
Désolée, je voulais juste rappeler qu'il y a la Pride des banlieues le 22 samedi à 13h30. C'est à La Courneuve à Aubervilliers, l'arrêt sur le RERB.
Voilà, faut absolument y aller. Le rendez-vous est à 13h. Et puis, pour terminer la journée en beauté, après avoir bien défilé, direction le Café de la Danse pour le concert de la Quirale avec Loa Mercury qu'on a reçu dans notre émission. Et puis, une autre occasion d'aller voir la Quirale, c'est au festival This is Drag. Ce sera le 6 juin au Trianon. Merci à toute l'équipe du lobby. Merci à Xavier. Merci à Zoé. Merci à Victor, merci à nos invités Maud Royer de l'association Toutes des Femmes, Marie Patouillet qui était avec nous à distance, merci beaucoup et merci beaucoup Alexandre Anceau d'avoir été avec nous.
Et merci à toi Colin, on se retrouve très vite sur les applications de podcast et sur Instagram @lelobbyrcp. À bientôt.